Donc j'étais chargé d'une série de prédications sur donc ce livre du prophète Michée. Mais avant de rentrer dans notre texte, je vais très rapidement présenter quelques éléments généraux qui devraient nous aider à mieux comprendre les livres prophétiques de l'Ancien Testament. Tout d'abord, quel est le but des prophéties ? Avant d'essayer de comprendre donc ces livres, il est utile de comprendre la raison d'être des prophéties dans le cadre de l'ancienne alliance, de l'alliance entre Dieu et son peuple, les Israélites, avant la venue de Jésus-Christ. Les prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Ils ont pour mission d'annoncer des messages de la part de Dieu. D'une part à Israël, et en particulier aux institutions d'Israël, lorsqu'elles sont défaillantes, comme la royauté, comme la prêtrise, mais aussi à l'ensemble des hommes de tous les temps, comme nous le verrons dans ce livre de Michée. Israël fonctionnait dans le cadre d'une alliance, comme je l'ai dit, entre Dieu et le peuple, où le peuple s'engageait à obéir à Dieu, et Dieu s'engageait à bénir le peuple. Les rois et les prêtres étaient chacun à leur manière des représentants du peuple devant Dieu. Ils avaient donc une responsabilité particulière pour mener le peuple dans le cadre de l'alliance dont on a parlé, mais bien souvent, ils y ont échoué et ont donc fait échouer le peuple tout entier. Interviennent alors les prophètes qui vont dénoncer les manquements des rois, des prêtres et du peuple pour remettre les pendules à l'heure. Et le prophète va jouer un rôle de soutien du pouvoir lorsque le pouvoir, le roi, est fidèle à Dieu. Mais il va être un contre-pouvoir au sein des institutions lorsque ces institutions s'éloignent de Dieu. On peut deviner quel est le cas le plus fréquent. Les prophètes n'ont donc pas le rôle le plus valorisant. Ils vont être plutôt des mal-aimés et ils vont connaître souvent un sort funeste. Ils font le triste travail de dénoncer le péché. Un autre point, c'est que les prophéties s'inscrivent dans l'histoire. Elles sont liées au contexte dans lequel elles sont écrites et dites. Les prophètes réagissent à des circonstances précises auxquelles le peuple de Dieu faisait face. Exactement comme les lettres du Nouveau Testament. Mais on ne connaît pas toujours ce contexte, nous, aujourd'hui, et il est donc parfois très difficile de bien comprendre ces livres. Il faut également noter que les livres prophétiques ne contiennent pas toujours que des prophéties à proprement parler, mais ils contiennent aussi des narrations. On trouve plusieurs chapitres dans les récits d'Ésaïe ou de Jérémie. Et puis, vous connaissez certainement tous le livre de Jonas. Le livre de Jonas raconte une histoire vécue, c'est de la narration. Mais on peut aussi ajouter à cette liste des livres prophétiques traditionnels dans la parole de Dieu, des livres comme le livre de Josué, le livre des Juges, le livre de 1 de Samuel, 1 de Rois, qui dans la répartition traditionnelle de la Bible hébraïque sont classés dans la catégorie des prophètes antérieurs, c'est-à-dire avant les fameux prophètes comme Ésaïe, Jérémie, etc. Les prophéties, ce sont des discours pour conduire au changement. Un texte prophétique est avant tout un discours argumenté, destiné à opérer un changement chez ceux qui l'écoutent. Les prophètes vont donc déployer tous les outils rhétoriques pour faire passer leur message. Enfin, pour susciter la repentance et le retour à Dieu, on peut trouver 5 accents dans les messages des prophètes, dans des proportions variées, et on le verra bien avec le livre du prophète Michée. Premièrement, la dénonciation des fautes, dire ce que le peuple n'a pas bien fait. L'annonce du châtiment, la punition. Des promesses de délivrance. Le rappel de qui est Dieu et quelle est sa loi. Un appel aussi un changement de comportement. Bien sûr, quand on pense aux prophéties, on pense à la prédiction et à l'annonce du futur, de ce qui va arriver dans la fin des temps. Pourtant, la révélation du futur par Dieu n'occupe pas forcément la majeure partie des prophéties. Et surtout, ça c'est une phrase que j'ai tirée dans un commentaire, que la prédiction est toujours au service de la prédication. Retenez ce jeu de mots. La prédiction est toujours au service de la prédication. C'est-à-dire que si on prédit quelque chose, c'est pour que ça serve à notre enseignement, à notre édification. Et les prophètes n'annoncent jamais le futur pour se mettre en avant, mais pour provoquer un changement du cœur. Maintenant, l'annonce d'un châtiment, comme on le verra dans ce livre, et dans bien d'autres livres des prophètes, l'annonce d'un châtiment a pour but de provoquer le regret, tandis que l'annonce d'une bénédiction, on en verra aussi, encourage à persévérer dans la confiance en Dieu. Mais venons-en maintenant, après ces généralités sur l'ensemble des livres prophétiques, des généralités très générales, très superficielles, mais venons-en au livre même du prophète Michée, que nous allons lire par tranches successives jusqu'au chapitre 2, verset 5. Et donc, vous avez maintenant à l'écran le verset 1 que je vais lire. Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Morchet, sous les règnes de Jotham, Ahaz et Ézéchias, rois de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. On ne connaît pas la personne de Michée, on ne connaît la personne de Michée que par ses écrits. Et comme la plupart des autres prophètes, Michée nous parle très peu de lui-même. On sait juste donc qu'il est originaire d'une ville qui est à 35 km au sud-ouest de Jérusalem, pour ceux qui connaissent le territoire d'Israël. Il ne faut pas confondre avec un autre Michée dont on parle dans le premier livre des Rois, qui a vécu un siècle plus tôt. Alors, on peut dater les oracles, les paroles de Michée avant 722 avant Jésus-Christ, dans la période donc assez éloignée de Jésus-Christ, tout compte fait. Alors Michée nous dit lui-même, au début de la révélation qu'il a reçue, qui concerne les villes de Samarie et de Jérusalem, qui sont les capitales du royaume du Nord et du royaume de Juda, qui était le royaume du Sud. Alors vous allez avoir des transparents là, si... voilà. Là, vous voyez un petit peu la datation des écrits des prophètes. Ça vous donne juste une petite idée des époques. Et de 850 avant Jésus-Christ jusqu'en 400 avant Jésus-Christ avec Malachie. Donc, ce sont des écrits donc plusieurs siècles avant la venue de Jésus-Christ. Et si on voit l'image suivante... C'est pas vraiment ça... Ah si, alors encore la suivante, voilà, ici vous voyez, peut-être mal mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, que vous aviez deux royaumes en Israël, à droite, le royaume du Nord et le royaume du Sud de Juda à gauche. Chaque royaume était séparé et ils étaient un petit peu ennemis, hein, même s'ils étaient le peuple de Dieu ensemble. Et entre les deux colonnes, vous avez les prophètes qui sont mentionnés à l'époque où ils sont intervenus. Et vous voyez qu'ils sont intervenus avec beaucoup de rois, sous le règne de beaucoup de rois. Et on a vu au début du livre de Michée qu'il y avait trois rois qu'on a mentionnés, qui sont Jotham, Ahaz et Ézéchias. Voilà, donc, quand on voit ce verset 1, on se dit que cette révélation, elle concerne les villes de Samarie et de Jérusalem. Donc, on pourrait arrêter là, plier nos affaires, se saluer et prendre notre voiture. Donc, ça ne nous concerne pas à nous, à Moret, Loing et Orvan. Donc, on va passer au verset 2 pour nous rassurer. Le verset 2 nous dit « Écoutez, vous tous, peuple !» Ah, là, c'est « vous tous ». Prête attention aux terres, et vous qui vivez sur elles, le Seigneur l'Éternel sera témoin à charge contre vous. Le Seigneur va vous accuser depuis son sanctuaire. Nous faisons donc partie, nous ici, à Moret, Loing et Orvanne, de ces peuples qui sont mentionnés donc au début du verset 2. Nous sommes donc tous bien concernés par cette révélation pour notre vie, pour notre enseignement, pour notre édification. Et Michée place donc le jugement de son peuple dans le contexte du jugement universel qui concerne l'humanité tout entière. Et la deuxième partie du verset qui est affichée nous donne les raisons pour lesquelles il faut écouter le Seigneur. En effet, le Seigneur est témoin à charge. Le Seigneur est témoin à charge. Un témoin à charge, c'est un témoin qui va chercher les éléments d'accusation qui vous concernent, qui va finalement vouloir travailler contre vous, contre vos actions. Et contre, finalement, là, les peuples de toute la terre dont nous faisons partie ici à Moret, Loing et Orvanne. Et il est donc important pour nous de bien prendre au sérieux ce texte et ses avertissements. Et comme pour enfoncer le clou, à la fin du verset 2, Michée mentionne un sanctuaire, que l'Éternel parle de son sanctuaire. Cela veut dire que c'est un lieu saint. Il parle d'un lieu saint. Donc Dieu est à la fois, si on lit bien ce verset, plaignant, témoin à charge, accusateur et juge. On peut donc le prendre très au sérieux. Et à partir du verset 3, l'Éternel annonce sa venue décrite à l'aide de manifestations qui accompagnent généralement ses apparitions. On le verra tout à l'heure. Il vient pour le jugement. Et après une brève mention des fautes des deux royaumes, c'est leur sort qui est annoncé. Pour Samarie, on le verra, un monceau de pierres, au verset 6 tout à l'heure, et pour Juda, la déportation et l'exil d'une partie de la population. Avant de rentrer dans la suite du texte, et dans la mesure où nous poursuivrons cette série de prédications sur le livre de Michée, il me paraît utile de présenter ici un petit peu la structure de l'ensemble du livre, et j'ai choisi celle que propose Sylvain Romerowski, que les plus anciens dans la salle ont connu, puisqu'il est venu faire une retraite d'église ici à Veneux. Il est professeur à l'Institut biblique de Nogent et à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, et donc on va le projeter. Voilà, vous voyez que ce livre, c'est une structure assez traditionnelle dans la Bible. Vous avez une structure en V, mais on retrouve chaque fois une accusation des menaces suivie de promesses. On revient sur accusation et menaces suivie de promesses, suivie de menaces à nouveau, et à nouveau de promesses, d'accusations. Chapitre 6, et puis de promesses. Donc, nous oscillerons chaque fois entre accusation et promesses. Retenez bien ce cadre général, puisque ça concerne l'ensemble du livre, et c'est intéressant d'en prendre bien connaissance. Mais voyons maintenant cela de plus près, à partir du verset 3. Verset 3. D'accord. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il va descendre, marcher sur les sommets et les hauteurs de la terre. Sous ses pas, les vallées se fendront au milieu. Les montagnes fondront comme la cire au feu, comme l'eau versée coulant sur une pente. Ces images soulignent le fait que l'Éternel, comme un géant, domine tout et que rien ne résiste à sa colère, qui revêt ici un aspect vraiment terrifiant. Imaginez les montagnes qui s'effondrent et des vallées qui s'entr'ouvrent. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu, mais quand vous regardez par exemple des photos de glaciers dans les Alpes, on voit vraiment que un petit peu l'illustration de ce que nous dit Michée ici, échelle certainement réduite par rapport à ce qui arrivera ici. Cela nous pousse vraiment à considérer Dieu sérieusement encore. Vous voyez, ça fait déjà plusieurs fois que je dis cette parole. On ne peut pas prendre Dieu à la légère, on ne peut pas prendre sa parole à la légère, ses enseignements, les principes de vie qu'il nous enseigne, que ce soit les commandements que nous avons étudiés en début d'année, ou que ce soit les principes de vie éthiques, les principes éthiques qu'on a aussi étudiés il y a quelques années, sur l'honnêteté, le respect du mariage, sur notre engagement général avec lui, avec Dieu. Certes, il y a la grâce, mais la grâce n'est pas là pour dévaloriser ou minimiser son enseignement. Et poursuivons avec l'objet maintenant des accusations dans ce livre de Michée, versets 5 à 7. Et pourquoi cela ? Pourquoi l'Éternel descend comme ça ? À cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion ? N'est-ce pas Samarie ? Et à cause de qui ces hauts lieux sont-ils en Juda ? C'est à cause de toi, Jérusalem. Aussi vais-je réduire Samarie à un monceau de pierres dans la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la raserai jusqu'en ses fondements. Ces idoles sculptées seront toutes brisées, et tous ces gains impurs seront livrés au feu. Ces images taillées, je les mettrai en pièces. Elles ont été faites grâce au salaire de ces prostitutions. Aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. C'est une première vague d'accusations. On voit les mots rébellion, péché, désobéissance, idolâtrie. Les hauts lieux, c'était des lieux d'idolâtrie, les idoles sculptées, la prostitution sacrée, qui était très pratiquée à l'époque, et puis qui provoquait des gains impurs. Ce sont les premiers commandements de la loi qui sont bafoués. Les premiers commandements, tu n'auras qu'un seul Dieu, etc., sont bafoués par le peuple. Quels sont les coupables ? Michée, au verset 5, cible clairement les capitales, Samarie et Jérusalem. Et il désigne Samarie comme contaminateur de Juda. Le mal est parti en Samarie et s'est propagé jusqu'à Jérusalem. Par la mention de ces capitales, Michée fait implicitement référence aux rois et aux dirigeants spirituels de ces deux royaumes, qui entraîne le peuple dans le péché et l'idolâtrie. Et l'on voit que les punitions ne sont pas légères. Au verset 6, la destruction, un tas de pierres pour Samarie. Un tas de pierres pour Samarie. Destruction par le feu. Il n'y avait pas de bulldozer, mais tout a été rasé. Verset 7, annonce que l'or et l'argent pillés par les envahisseurs qui sont annoncés, eh bien, serviront aussi aux Assyriens, c'est-à-dire aux envahisseurs, à pratiquer eux-mêmes la prostitution sacrée chez eux. C'est ce que dit le texte. Dans la partie du verset 7, aussi serviront-elles comme salaire d'autres prostitutions. Vous voyez l'enchaînement du mal. Et plus loin, nous verrons tout à l'heure, au verset 12, que le malheur est envoyé jusque devant les portes de Jérusalem. Et verset 15, contre vous, je vais faire venir un nouveau conquérant, un nouvel envahisseur. Et au verset 16, plus loin, nous le verrons, l'annonce d'un exil lointain. Et le roi d'Assyrie, Sanchirib, qui a écrit ses annales, indique à l'époque avoir déporté 200 000 personnes des villes et village de Juda. Donc c'est des faits historiques avérés. Quels enseignements pouvons-nous recevoir de cette première partie du texte pour nous aujourd'hui ? Puisque là on parle de Samarie, de Jérusalem, mais nous aujourd'hui. Eh bien, nous recevons pour nous aussi un grand avertissement collectif pour chacun de nous. Mais aussi un avertissement pour les responsables des églises, pour les responsables de nos communautés. ils sont responsables, nous sommes, puisque j'en fais partie, responsables devant Dieu des orientations prises par la communauté. Nous sommes responsables éventuellement du laxisme qui peut être pris, ou alors du laisser-aller au plan de la doctrine ou des principes éthiques, que ce soit sur le mariage ou autre. Il leur appartient, il nous appartient de veiller à garder l'Église, son enseignement, ses pratiques dans la conformité à la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit ce texte pour nous aujourd'hui au XXe siècle. Cela peut impliquer des prises de position qui ne sont pas dans le sens du vent, qui ne vont pas dans le sens de l'opinion générale, qui ne vont peut-être pas dans le sens de certaines lois qui sont votées, même récemment. Mais nous devons résister. Et cela couvre, bien sûr, les anciens des églises, mais aussi les responsables de famille, les pères de famille, les couples, les mamans qui ont des enfants. Nous sommes aussi responsables de nos familles. Il y a aussi les unions d'églises qui portent l'évangile devant les autorités du pays. Mais aussi, cela concerne chacun de nous, chaque chrétien, chaque membre d'église. Chacun, à son niveau, doit veiller à ses décisions, à ses pratiques, et cela conduit inévitablement à des luttes, à des tensions, voire à des hostilités. Mais c'est bien là le cœur du problème. Poursuivons avec les versets 8 et 9. Avec les réactions de Michée face à cette situation, face à l'annonce des mauvaises nouvelles pour Israël et pour Juda. Voilà pourquoi je vais mener le deuil, je vais me lamenter, je vais marcher pieds nus, sans vêtements, je pousserai des cris comme ceux du chacal et des gémissements comme font les autruches. La plaie de Samarie est incurable et elle atteint même Juda. La voilà qui s'avance jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. On voit ici la réaction personnelle du prophète Michée, qui ne peut pas rester insensible au message qu'il apporte. C'est bien là un trait de caractère, un trait caractéristique de sa conscience prophétique, j'allais dire professionnelle, de sa conscience prophétique, professionnelle de prophète. La description du verset 8, on voit que Michée se lamente, il pleure, il crie, il gémit pieds nus, qui c'était les signes de deuil de l'époque. Cela correspond donc au rituel des chants funéraires, où il donne libre cours à sa douleur. Michée est très affecté par le message qu'il délivre. Et un autre élément souligne l'engagement spirituel et la hauteur de vue de Michée. Michée, il était du royaume du sud, du côté de Jérusalem, donc de Juda. Or, il se lamente ici à cause de ce qui va arriver au royaume du nord, de Samarie, qui était donc plus ou moins ennemi du royaume du sud. Cela souligne sa conception unitaire du peuple de Dieu. Telle est l'interdépendance des membres du peuple de Dieu. Là aussi, c'est un exemple pour nous, à tous les niveaux dans notre conception de l'Église locale, mais aussi de la famille. Sommes-nous sensibles au mal et à ses conséquences comme Michée ? Pleurons-nous sur le mal ? Halte aux querelles et aux guéguerres inutiles dans nos familles, dans l'Église, guéguerres qui divisent. Halte aux influences néfastes. Nous sommes appelés à être des ferments d'unité et de réconciliation, comme Michée l'a été. Et un autre point, c'est qu'au verset 9, Michée dit que ce mal, cette plaie, s'avance jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Si donc le mal arrive à la porte de Jérusalem, c'est la classe dirigeante de Jérusalem, chargée de garder le peuple, qui va être contaminée. Et le peuple tout entier ne tardera pas à être touché à son tour. Mais poursuivons. Verset 10 et suivant. Ne le proclamez pas dans la ville de Gath. Ne pleurez pas, gens de Beth-Léphra. Couvrez-vous de poussière. Habitants de Shaphir, allez nus et honteux. Le peuple de Tsana ne sortira plus de sa ville, et celui de Beth-Etzel ne sait plus que se lamenter, et son soutien vous est ôté. Le peuple de Maro est bien malade. Oui, le malheur est envoyé par l'Éternel, jusque devant les portes de Jérusalem. Habitants de Lachish, attelez vos coursiers aux chars, car vous êtes à l'origine du péché de Sion, sous-entendu Jérusalem. C'est bien chez vous que la révolte d'Israël a été imitée. Voilà pourquoi vous devez donner à Moréchet Gat sa lettre de divorce, et les maisons d'Askib seront une cause de déception pour les rois d'Israël. Contre vous, habitants de Maresha, je vais faire venir un nouveau conquérant, et le glorieux roi d'Israël devra se réfugier à Adullam. Rasez-vous donc, arrachez vos cheveux, habitants de Jérusalem, en signe de douleur à cause de vos fils qui font tous vos délices. Oui, rasez-vous la tête pour que vous soyez chauves, pareil à des vautours, parce qu'ils vont être emmenés loin de vous en exil. On en parlait tout à l'heure. Michée annonce une invasion étrangère qui balayera le territoire du nord, du territoire de Juda, du nord-est et du sud-ouest. Pour accentuer la valeur dramatique de sa prophétie, Michée dresse une liste de localités où les Israélites vont pleurer, comme le prophète lui-même, au verset 10 qu'on a vu, pour vivre une expérience douloureuse. Il s'appuie sur le sens et sur le son du nom de chaque ville citée pour faire passer son message de façon percutante. C'est un peu comme si Michée disait aujourd'hui « N'allez pas le dire à Montereau, n'allez pas pleurer à Fontainebleau ou à Saint-Mamé ». Les habitants de l'époque comprenaient aussi beaucoup mieux la gravité du mensonge prophétique de Michée. Devant cette cascade de catastrophes, il ne restera plus pour l'armée des Israélites aux abois qu'à prendre la fuite, comme David autrefois. Et petite anecdote, on parle du site de Adullam, c'est là où David, plus tôt précédemment, était allé se réfugier quand il était attaqué. On voit ça dans 1 Samuel 22. Triste sort pour les fils chéris d'Israël, au verset 16. Les fils chéris élevés dans le luxe qui vont partir en exil. Israël étant en vue dans notre texte comme une mère contrainte de couper sa chevelure en signe de deuil. Verset 16. Mais venons-en maintenant à la deuxième partie de notre texte, ça sera assez rapide, mais assez dur, les versets 1 à 5 du chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent le mal et trament des méfaits tout au long de la nuit. Au point du jour, ils vont les accomplir en profitant de leur pouvoir. Ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils oppriment les gens, les dépouillant de leurs habitations et de leurs terres. C'est pourquoi l'Éternel déclare « Contre cette nation, je projette un malheur. Il sera comme un joug devant vous, vous ne pourrez plus vous dégager de coup. Vous ne marcherez plus la tête haute, car le temps qui arrive est un temps de malheur. » Verset 4 « En ce jour-là, on vous citera en exemple dans les proverbes. On chantera sur vous une lamentation. On dira « C'en est fait, nous sommes dévastés, totalement détruits. Dieu fait passer à d'autres la propriété de mon peuple. Hélas, on me l'enlève pour donner aux rebelles nos terres en partage. Voilà pourquoi vous n'aurez plus personne dans l'assemblée de l'Éternel pour vous distribuer votre part du pays. » Voilà les paroles de Michée. Dans cette partie du texte, Michée s'élève surtout contre les injustices sociales. Et l'on peut observer l'enchaînement des attitudes et des actions qui sont contraires à la loi de Moïse. On voit, par exemple, aux 10 commandements, et qui conduisent au jugement de Dieu. On voit au verset 2, la convoitise. Tu ne convoiteras point, c'est un commandement de l'Éternel. Tu ne voleras point, c'est aussi un commandement, le 8e de la loi de Moïse. Comme le royaume du Nord, le royaume de Juda avait connu une assez longue période de prospérité économique. Mais cela avait surtout profité à la classe dirigeante qui concentrait entre ses mains les richesses et les propriétés foncières, tandis que le reste du peuple était exploité et s'appauvrissait toujours plus. Michée accuse donc la classe dirigeante d'abuser de son pouvoir pour dépouiller les gens du peuple et commettre des actes de violence contre des gens sans défense, bafouant en particulier les droits élémentaires des plus défavorisés. Et l'on voit au verset 4 qu'à cause de cela, Dieu transfère à d'autres la propriété du territoire, ce qui conduit aussi à l'exil des propriétaires et d'une partie du peuple. Ce passage nous montre, comme bien d'autres livres de la Bible, que Dieu est très sensible à l'injustice sociale. Cela doit nous interpeller. Le sommes-nous, nous aussi? L'injustice sociale concerne évidemment, en premier chef, les dirigeants, les chefs des dirigeants, que ce soit les dirigeants du pays, que ce soit les élus, que ce soit aussi les patrons, les chefs d'entreprise. C'est facile, c'est pas nous, donc c'est eux. Dans nos pays, des dispositions officielles, les lois, les textes réglementaires, contribuent à atténuer les injustices sociales. Nous avons des élections libres, démocratiques, avec une opposition. Nous avons des organisations syndicales pour défendre les droits des travailleurs. Nous avons une justice pour défendre ceux qui sont attaqués. Et nous devons respecter ces dispositions, même si elles sont toujours améliorables. Mais l'injustice sociale peut aussi nous concerner personnellement et très directement dans toute une série de petites choses, à première vue bien anodines. Ce n'est pas juste de prendre le métro ou le train sans billet. Ce sont les autres qui payent à notre place. Ce n'est pas juste de masquer certains revenus dans notre déclaration d'impôt. Ce sont les autres qui doivent payer à notre place. Ce n'est pas juste de trichoter avec l'administration pour pouvoir bénéficier de certaines aides auxquelles, en toute rigueur, nous n'avons pas vraiment droit, que ce soit au niveau des allocations, différentes allocations sociales, familiales, etc., que ce soit au niveau du chômage. Ce n'est pas juste de faire travailler quelqu'un au noir ou de travailler soi-même au noir, c'est-à-dire sans être déclaré. Ce sont les autres qui doivent payer les charges sociales à notre place. C'est aussi cela que nous dit notre texte. Et sur tous ces points et devant Dieu, notre responsabilité est équivalente à celle des dirigeants du peuple mentionnés dans le livre de Michée. Nous devons prendre toutes ces choses très au sérieux. Nous voyons bien que Dieu n'est pas d'accord. On ne doit donc pas transiger. Et Michée nous rappelle et nous exhorte à veiller à toutes ces choses avec le plus grand sérieux. Que Dieu nous aide donc chacun, quelles que soient nos situations, à rester intègres dans toutes les facettes de notre vie. Peut-être que ce livre de Michée va nous interpeller et nous conduire à redresser certaines situations ou à abandonner certaines pratiques. Mais soyons encouragés par le fait de savoir que tout cela va dans le sens de la volonté de Dieu, du Dieu que nous voulons servir et honorer, que nous avons largement chanté ce matin, dont nous avons chanté la louange. Eh bien, bon courage, mes amis, dans notre marche d'obéissance au Seigneur. Amen.